franceinter.fr.
Le journal présenté par Yves Decamp.
Bonjour. Une évacuation sans coup férir rire à Bure. Pour l'instant, les gendarmes mobiles sont intervenus ce matin pour déloger les zadistes opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Les associations se disent choquées. Le gouvernement appelle au respect du droit. Invité de ce journal, la députée européenne Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi. La piétonnisation des voies sur berge à Paris, retoquée par le tribunal administratif pour procédure irrégulière. La mairie de Paris fait appel. Pas question pour elle de faire marche arrière. La présidente de la région Île-de-France, à l'origine du recours, entre autres, appelle Anne Hidalgo au compromis pour une piétonnisation douce. Valérie Pécresse qui s'inquiète par ailleurs d'une modification du calendrier sur le réseau Grand Paris Express, dont certaines lignes pourront avoir 3 à 5 ans de retard, comme vient de l'annoncer le Premier ministre. Y a-t-il eu des irrégularités dans les comptes de campagne du candidat Mélenchon ? On parle de surfacturation au profit d'une association proche de la France Insoumise qui dément en rappelant que les comptes ont été validé par la Commission nationale de campagne et de financement politique. Dans ce journal également, les jeunes agriculteurs à l'Élysée, deux jours avant le salon. Ils sont reçus par Emmanuel Macron qui voudrait les rassurer sur différents sujets, notamment le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud qui les inquiète tout particulièrement. La grève à Air France et l'annulation de la moitié des longs courriers au départ et vers Paris. Et puis bien sûr les Jeux Olympiques, le relais féminin du biathlon avec des Françaises qui peuvent tirer leur épingle du jeu, mais c'est assez mal parti, Vanessa Marguet.
C'est compliqué au tir hein, pour les Françaises. Déjà 8 fautes au niveau du tir, mais ça va sur les skis. La troisième relayeuse, Justine Brezaz, est actuellement en troisième position, seulement à 15 secondes de la première, l'Italienne.
Vanessa Marguet, qu'on retrouvera donc sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
De la fraîcheur, mais du beau temps.
Oui, soleil du bassin d'Aquitaine au Berry, jusqu'à la Lorraine, au nord de la Seine et sur les plages de la Manche et de l'Atlantique. Ailleurs, ce sont les nuages qui vont l'emporter avec un ciel plus gris à l'est du Rhône. La Corse aura quelques averses pouvant déborder vers la Côte d'Azur. Et puis les températures sont effectivement bien fraîches, variant de 3 à 12 degrés en général et 1 à 3 degrés seulement sur le nord-est.
Le bulletin météo complet en fin de journal. Pas question de laisser se reproduire la situation de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement a donc lancé ce matin l'opération d'évacuation du bois Le Juc à Bure dans la Meuse, où doit être installé un centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Opération annoncée de bonne heure ce matin par le ministre de l'Intérieur lui-même sur son compte Twitter, Gérard Collomb, qui met donc à exécution une décision de justice du mois d'avril dernier. 500 gendarmes, dont 5 escadrons de gendarmes mobiles, ont été mobilisés pour évacuer le site de 221 hectares. Jérôme Jadot, alors, comment l'évacuation s'est-elle passée ?
Alors l'évacuation en elle-même s'est plutôt déroulée dans le calme. Une quinzaine de personnes ont été sorties de ce bois. Un opposant a été interpellé, il aurait tenté de mettre le feu à une barricade. Mais la tension est ensuite montée dans le centre du village de Bure. Les vitres de la mairie ont été caillassées. On a vu des militants vêtus de noir et cagoulés sur le toit de ce qu'on appelle la maison de la résistance. Des pierres ont été jetées en direction des forces de l'ordre qui sont entrées à l'intérieur de cette maison, ce que déplore Caroline Fiat, députée La France Insoumise venue sur place.
Les Meusiens, et c'est une Meusienne qui vous le dit, ce sont des têtes dures, donc je pense qu'en faisant ça, ça va mobiliser encore plus de monde. Donc bah, écoutez, ce sera leur problème et puis le mien. Mais pas avec de la violence, là je suis en ligne avec eux régulièrement. Il n'y a pas à violenter les gens parce qu'ils veulent préserver leur terre.
Au moins 3 nouvelles interpellations ont eu lieu dans cette maison. La perquisition est toujours en cours. Alors pourquoi cette opération d'évacuation du bois de Bure a été lancée aujourd'hui par des températures négatives? Eh bien, ça n'est pas parce qu'il y avait potentiellement moins d'occupants à ce moment-là sur le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric Delanouvelle.
L'objectif de cette opération, c'est d'éviter que cette zone, comme d'autres zones, devienne une zone de non-droit. Il y avait le projet des opposants et des occupants illégaux d'installer ces prochaines semaines un bâtiment en dur sur cette zone. C'est une des raisons pour lesquelles l'opération a été décidée aujourd'hui.
La trêve hivernale ne joue pas, ajoute d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, qui considère qu'il ne s'agissait pas d'une zone habitée. Il va falloir désormais déblayer les bivouacs, les barricades du bois Le Juc. Des forces de l'ordre vont être maintenues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ici, pour éviter une nouvelle installation.
Jérôme Jadot à Bure avec Jérémy Thuil. Le Premier ministre Édouard Philippe avait prévenu qu'il ne laisserait pas s'enquister les ZAD, les zone à défendre, occupée par des militants, dans un état de droit. Et écrit sur Twitter également le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, les oppositions doivent s'exprimer de manière légale, ce que confirmait également à nouveau le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, propos recueillis par Lola Fourmi.
Nous ne voulons plus qu'il y ait de lieux en France qui soient des lieux de non-droit, et où donc l'on puisse s'installer en dehors de toute règle. Vous savez que sur ce lieu, il y avait eu une ordonnance qui avait été prise par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et donc qui avait permis d'utiliser la force pour pouvoir expulser celles et ceux qui étaient présents indûment. Donc nous avons fait exécuter ce matin cette mesure. Donc 500 gendarmes étaient présents. Je crois que les choses se passent bien, que tout se fait dans l'ordre et l'application de la loi. Donc il n'y a pas de difficulté fondamentale.
Voilà, plus ou moins. Donc, comme on vient de l'entendre du côté des zadistes et de leur soutien, on l'a dit, c'est la sidération pour les opposants au projet. Tous les recours n'ont pas été épuisés. La propriété du Bois-le-Juc, cédée à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, reste contestée. C'est dans ce bois donc que seront installées les cheminées d'aération du projet CIGEO, projet d'enfouissement à 500 mètres sous terre des déchets les plus radioactifs ou à vie longue du parc nucléaire français. Invité de ce journal en ligne depuis Bruxelles, Michel Rivasi, député européenne Europe Écologie Les Verts, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous êtes dans la sidération ce matin ?
Oui, je suis dans la sidération et notamment quand on emploie le terme de respect du droit. Parce que qui ne respecte pas le droit ? Ben déjà, c'est l'ANDRA qui avait été justement attaqué par la cour d'appel de Nancy parce qu'ils avaient défriché ce bois à le jus alors qu'ils n'avaient pas à le faire. La deuxième chose, c'est que je me dis qui respecte le droit par rapport à la loi de transition énergétique votée en 2015 par l'Assemblée nationale ? Ben c'est EDF qui ne veut pas diminuer la part du nucléaire dans la fabrication de l'électricité. Il ne veut pas fermer des réacteurs. Vous voyez que maintenant, EDF est hors la loi par rapport à une loi démocratiquement votée.
Alors vous
et quand j'entends le ministre qui dit il faut le respect des droits, mais oui, c'est eux-mêmes qui ne le respectent pas, le droit.
Mais vous parlez de droit, l'occupation du site était illégale.
Ben, l'occupation du site, en tout cas, le fait que l'ANDRA ait défriché, ça, c'était illégal. Ce n'est pas le problème des ZADIS, c'était le problème de l'ANDRA. Et ça a été confirmé par la justice.
Le tribunal administratif avait donné acte à l'ANDRA en mois d'avril.
Eh bien, écoutez, en mai, le 22 mai, la cour d'appel de Nancy avait confirmé que l'ANDRA n'avait pas le droit de défricher le Bois-le-Jus. Donc là, c'est quand même la justice.
Donc pour vous, était légitime d'occuper le site ?
Écoutez, à l'heure actuelle, le débat sur le stockage, parce que revenons au fond du problème, c'est le stockage de déchets radioactifs en grande profondeur. Moi-même, quand j'ai été députée, j'ai visité l'ensemble des sites dans le monde. Et que ça soit WIPP aux États-Unis, où on faisait du stockage en grande profondeur dans les mines de sel, il y a eu une explosion dans la mesure où il y avait des déchets radioactifs avec les rayonnements qui ont provoqué un incendie. On ne peut plus y accéder. Il y a eu le projet en Allemagne, projet de Haas, soi-disant dans des mines de sel où il n'y avait absolument pas d'eau. Maintenant, les déchets baignent dans l'eau, il a fallu le fermer. Il y a eu le problème de la Suède récemment, où là aussi la justice a interdit le permis justement pour le stockage en grande profondeur dans du granit. Donc ce que je voudrais dire aux gens, c'est que les sites de stockage en grande profondeur, ça ne marche pas. Il y a trop de risques. Soit des risques d'incendie, que confirme l'autorité de sûreté nucléaire en France. Ils ont dit on ne peut pas mettre des déchets bitumineux parce qu'il y a un risque d'incendie. Alors vous imaginez, à 500 mètres de profondeur, qui va descendre quand ça sera contaminé ?
Mais ce projet, Michel Rivasi, ce projet CIGEO est sous contrôle des différentes autorités, notamment de l'ASN. À l'instant, le directeur du centre Meuse-Haute-Marne de l'ANDRA répète que c'est la seule solution qui permette de protéger la population durablement.
Mais pas du tout. La preuve, c'est que c'est des projets sur plus de 100 000 ans. Regardez la grotte Chauvet, là, qui est à côté de chez moi, qui est en Ardèche. C'est à 36 000 ans. Quelle mémoire on va transmettre dans 100 000 ans ? Personne ne peut savoir. Et il y a des projets alternatifs, des projets en surface ou en subsurface, voyez,
vous
pour éviter les risques terroristes.
Vous pensez que les projets en surface sont moins dangereux ?
Pour moi, le projet, si vous voulez, en subsurface, où il y a, vous voyez, une certaine épaisseur de terre pour éviter des actes terroristes. Enfin, la Hague, vous voyez, avec la quantité de déchets qu'il y a, bonjour les risques de sécurité. Pour moi, il faut toujours avoir la mémoire de ces déchets. Si jamais il y a des fissures, si jamais il y a un incendie, mais que c'est en surface ou subsurface, vous pouvez intervenir. Quand vous êtes à 500 mètres de profondeur, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, on ne peut plus y avoir accès. Et là, vous allez impacter les générations futures. Vous allez contaminer les nappes phréatiques. Vous allez, voyez, enclencher des contaminations.
La réversibilité du site est prévue pour une centaine d'années.
Pour une centaine d'années, mais le problème de la réversibilité, c'est que quand vous faites des puits, il peut y avoir des problèmes d'intrusion et d'infiltration. Et puis, une fois que ça sera irréversible, eh bien, vous n'avez plus du tout la possibilité d'avoir la mémoire d'un site quand on sera à 50 000 ans ou à 100 000 ans. Donc, c'est une mauvaise solution. Et je comprends pourquoi il y a des zadistes. Je comprends pourquoi il y a des gens qui s'offusquent par rapport à cette gestion en grande profondeur. Parce qu'il n'y a pas... Vous voyez, c'est le talon d'Achille, les déchets radioactifs. Quand on a mis ce nucléaire en place il y a 50 ans, on nous disait on va résoudre ce problème de déchets radioactifs. Eh bien, on n'y arrive pas.
Mais les déchets existent. Les déchets existent. Il faut les traiter maintenant.
Tout à fait. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il faut gérer ces déchets radioactifs. Mais ce n'est pas en les enfouissant, voyant à grande profondeur, qu'on résoudra ce problème. On va vraiment transmettre aux générations futures des risques incroyables.
Bien compris, Michel Rivesien. Un dernier mot rapidement sur toute autre chose. Les voies sur berge à Paris, il faut continuer ?
Ah ben écoutez, si on veut réduire
la piétonisation, je veux dire.
La piétonisation, si on veut réduire la pollution de l'air, eh ben il faut augmenter la piétonisation, il faut augmenter les transports collectifs. Et c'est vraiment, il faut les développer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas suffisamment de transports collectifs qui sont effectués, des transports doux.
Michel Rivasi, députée européenne, Europe Écologie Les Verts, en direct de Bruxelles, merci beaucoup. Resteront-elles piétonnes ? Un peu, beaucoup, pas du tout, justement. Ces voies sur berge à Paris, c'est la question que se posent ce matin les Parisiens et au-delà l'ensemble des Franciliens. Après l'annulation par le tribunal administratif de la mesure mise en place par la municipalité depuis près d'un an et demi, la délibération déclarant d'intérêt général l'aménagement des quais rive droite, dite voie Pompidou au centre de la capitale, date de septembre 2016. L'arrêté créant une promenade publique du mois suivant. Pour le tribunal, la procédure était irrégulière. L'étude d'impact comportant des inexactitudes. La maire, Anne Hidalgo, a déjà répondu qu'elle ferait appel en demandant un sursis à exécution du jugement. Pas question pour elle de faire marche arrière sur une mesure qui, dit-elle, fait la fierté de notre ville. Une mesure de santé publique saluée par les Parisiens, ce que seule d'ailleurs une vraie consultation pourrait confirmer. Tant évidemment, chacun a sa petite idée sur la question. Illustration ce matin, Pierre Coquelin.
Sur le pont Neuf, le front perlant de sueur, Vincent termine son jogging. Ce Parisien utilise très régulièrement les voies sur berge pour courir.
Je suis un peu déçu d'apprendre cette nouvelle. C'est à la fois un endroit où vous pouvez courir tranquillement, où les familles peuvent se retrouver aussi. Alors moi, je suis pour la politique des 100 voitures. On essaie de les éliminer au maximum. Alors je comprends bien qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais je trouve ça un peu dommage de faire marche arrière alors que c'était une vraie avancée.
3 km 300 de la voie Georges Pompidou fermée à la circulation depuis septembre 2016. Pas de voiture. C'était pour Clara l'occasion de belles balades en toute sécurité.
Comme ça, le temps quand s'ensoleille, c'est agréable. Pour ce qui était aussi le vélo, le roller, c'est plus pratique que les rues de Paris.
Du côté des automobilistes, cette décision du tribunal administratif, c'est une victoire. Selon Pierre Chasseret, le directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes, la piétonnisation n'a fait que renforcer la pollution. À défaut de fluidifier le trafic, elle a créé des bouchons pour les 40 000 conducteurs qui utilisaient cet axe au quotidien. Il en appelle à une réouverture immédiate des voies sur berge.
Certes, quelques aménagements avaient été mis en place par la mairie de Paris, mais il va falloir les enlever. La récréation, c'est fini. On ne bouscule pas le tribunal par la pression. Le tribunal est une autorité souveraine en France. On passe devant et on s'y soumet.
Selon l'association 40 millions d'automobilistes, la voie de secours de la mairie de Paris passe par une piétonnisation le dimanche dans un premier temps.
Plus personne ne demande en tout cas le retour des voitures en face sur le quai rive gauche qui, lui, avait été piétonnisé par l'équipe précédente de Bertrand Delanoë. Le recours au tribunal administratif avait été notamment engagé par les collectivités locales d'Île-de-France, dont la région, et sa présidente Valérie Pécresse, qui appelle ce matin Anne Hidalgo au compromis. Elle l'appelle à travailler avec elle sur un scénario de piétonnisation douce des voies sur berge qui prévoirait notamment des mesures compensatoires pour les banlieusards, des offres supplémentaires de transport en commun ou des parkings relais. Hasard de l'actualité, c'est également ce matin que le Premier ministre devait trancher sur le projet du Grand Paris Express, le super métro de grande banlieue entourant la capitale. Projet pharaonique dont les budgets ont explosé, d'où l'annonce par Édouard Philippe que le calendrier des travaux serait modifié. Pas de changement dans le principe, Laurent Kramer, mais des retards de 3 à 5 ans sur certaines lignes.
Oui, donc aucune annulation ou réduction du tracé du Grand Paris Express, mais certains tronçons annoncés à l'horizon 2024-2025 sont repoussés à la date butoir du projet, soit 2030, retard technique mais surtout budget que le gouvernement veut resserrer de 10%. C'est le principe de réalité qui doit s'appliquer, explique le Premier ministre Édouard Philippe.
Je dois dire, mesdames et messieurs, que je n'éprouve absolument aucun plaisir à jouer les perles à rigueur. Mais mon rôle, c'est de rappeler le principe de réalité. Le bon objectif que je peux fixer, c'est de demander à la nouvelle direction de regarder dans quelle mesure on est capable d'optimiser un projet, on va dire à hauteur de 10% du coût complet.
Les plus gros retards concernent donc les lignes 15, Est et Ouest, Pont-de-Sèvres-Nanterre-Saint-Denis-Rosny, reportées de 2025 à 2030. La ligne 16, attendue à Clichy-Montfermeil, sera réalisée en deux temps. Un premier tronçon mis en service pour les Jeux Olympiques en 2024, entre le Bourget et Clichy. En revanche, il faudra attendre 2030 pour poursuivre la ligne jusqu'à Noisy et Champs-sur-Marne, avec donc 7 années de retard. Il faudra attendre 2030 également pour relier la ligne 17 entre Roissy-Charles-de-Gaulle et le triangle de Gonesse. La ligne 17 repoussée également de 3 années sur le premier tronçon entre le Bourget et le triangle de Gonesse, qui ne verra pas le jour en 2024 mais donc en 2027. Enfin, ligne très médiatisée, soutenue par le mathématicien député de La République En Marche, Cédric Villani, la ligne 18, dont les élus redoutaient parfois une annulation, est reportée de 2024 à 2027 dans le sens Orly-Saclay. Certaines lignes, bonne nouvelle quand même, verront le jour, comme annoncé, la ligne 14 Sud qui reliera Paris, les Olympiades à Orly, et la ligne 16-17 de Saint-Denis-Pleyel au Bourget, qui est bien maintenue pour les JO en 2024.
Le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, se félicite de décisions très claires qui rendent le projet irréversible. Réaction plus inquiète, en revanche, de la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, au micro d'Estelle Schmitt.
Je suis extrêmement préoccupée et inquiète du calendrier qui a été dévoilé aujourd'hui, parce que je pense qu'il est de nature à remettre en cause un certain nombre de grands projets. Je pense évidemment à l'aménagement du plateau de Saclay, avec une arrivée de la ligne 18 qui n'est prévue qu'en 2027. C'est absolument indispensable que ce moteur technologique de la France soit desservi par des transports en commun de qualité bien avant. Et c'est pareil sur la ligne 17 en Seine-Saint-Denis dans le Val d'Oise. Ces retards peuvent avoir pour conséquence que des maires vont se décourager et renoncer à des projets de logement ou d'emploi. C'est pour cela que la région va réunir très rapidement les présidents de départements concernés. On va regarder ce qu'on peut faire, à la fois pour trouver peut-être des financements supplémentaires, y compris peut-être des financements privés, voir comment est-ce qu'on peut peut-être encore accélérer les choses, et puis voir tous les transports du quotidien qui pourraient être mis en place pour compenser, pour alléger les difficultés de transport qui vont être liées à ces retards.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decan.
Et y a-t-il eu des irrégularités dans les comptes de campagne du candidat Mélenchon? Des comptes validés par la commission des comptes de campagne et du financement politique, qui a toutefois retoqué certaines demandes de remboursement. L'un des rapporteurs de la commission a d'ailleurs claqué la porte en dénonçant de possibles surfacturations au profit notamment d'une association, l'Air du Peuple, association proche de la France Insoumise, et sur laquelle vous avez enquêté, Elodie Guéguin.
Oui, alors c'est une petite association qui a généré d'importantes factures pendant la campagne, plus de 400 000 euros. En fait, elle a servi à salarier des membres de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, 4 membres, notamment un régisseur et 2 chefs de projet. Nous avons eu accès à leur contrat. Ils ont touché 75 000 euros pendant la campagne. Le problème, c'est que leur employeur, l'Air du Peuple, a refacturé une somme bien plus importante au candidat Mélenchon, 263 000 euros, somme dont Jean-Luc Mélenchon a par la suite demandé le remboursement par l'État. Alors, comment expliquer ce différentiel ? La France Insoumise n'a pas souhaité nous donner d'explications. La commission des comptes de campagne, elle, a décidé de réformer une bonne partie de ses dépenses, jugées injustifiées. La commission qui a aussi épinglé l'Air du Peuple sur le terrain fiscal, comme l'explique son président François Laugereau.
Cette association n'étant pas déclarée d'opération commerciale, n'était pas soumise à la TVA. Le problème se pose surtout, me semble-t-il, sur le terrain de la fiscalité. Au-delà, il est pour l'instant impossible de dire si cette opération représentait éventuellement une infraction. C'est un point que nous étudierons cependant.
Oui, parce que la commission des comptes de campagne nous a expliqué qu'elle avait encore la possibilité de saisir les services fiscaux ou la justice. La France Insoumise, sur son blog ce matin, a réfuté toute éventuelle irrégularité dans ses comptes.
Enquête complète de la cellule d'investigation de Radio France à retrouver sur franceinter.fr. Et effectivement, réaction de la France Insoumise par un communiqué qui répète que ses comptes de campagne ont été validés et ne comportent aucune irrégularité. La France Insoumise qui dénonce un acharnement du service public, lequel ne ferait jamais mention de ses réponses. Rappelons donc qu'un extrait vidéo de Jean-Luc Mélenchon avait été diffusé dans Questions politiques dimanche sur France Inter après l'article du Monde. Déminer le terrain avant de se rendre au salon pour le président de la République qui reçoit en ce moment même à l'Élysée un millier de jeunes agriculteurs. C'est un moment un peu particulier. Beaucoup d'entre eux se sont mobilisés toute la journée d'hier pour manifester leurs inquiétudes sur de nombreux sujets. Les relations avec la grande distribution, la sortie programmée du glyphosate, le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Sans oublier, Manuel Ruffez, vous êtes à l'Élysée, la modification par le gouvernement de la carte des zones défavorisées. Ça fait beaucoup de sujets.
Eh oui, c'est vraiment ça. Emmanuel Macron qui a commencé son discours il y a 20 minutes maintenant aborde et désamorce les sujets point par point, les zones défavorisées, les accords commerciaux avec l'Amérique du Sud, le retard de paiement, certaines aides. Il n'oublie rien et tente de convaincre. Il a vraiment tenu Emmanuel Macron à s'adresser ici à la nouvelle génération d'agriculteurs, les générations Y, hommes et femmes de moins de 35 ans et tout récemment installés, soit 2017, soit 2016. Ils sont donc là, réunis sous les ordres de la salle des fêtes de l'Élysée, près d'un millier, regroupés par région et reçus en grande pompe donc par Emmanuel et Brigitte Macron. Ça, c'est pour le décorum. Ensuite, eh bien, il y a le discours. Pourquoi les jeunes? Parce que 40% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les années qui viennent et que le chef de l'État veut vraiment conduire ce secteur vers un changement en profondeur, dit-il, avec ses entrepreneurs agricoles. Changement où il est question de montée en gamme, de protection de l'environnement, tout ça dans des marchés mondialisés, avec une génération, doit-il aussi expliquer, qui ne doit plus être dépendante des aides, mais du juste prix payé aux agriculteurs. Les aides ne seraient plus qu'une sorte de filet de sécurité. Voilà donc, pour les grandes lignes, le président et son épouse, après le discours, vont passer beaucoup de temps de groupe en groupe pour parler à chacun, n'en rater aucun et aborder toutes les problématiques. À l'Élysée, Manuel Ruffez, France Inter.
Emmanuel Macron qui à l'instant veut réconcilier l'écologie et l'agriculture. Il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France, dit-il. Allusion bien sûr à ceux qui craignent les traités de libre-échange. 28% de grévistes selon la direction d'Air France. Le mouvement lancé par 10 syndicats de pilotes, hôtesses, stewards et personnel au sol serait donc conforme aux prévisions avec à peu près la moitié des vols long courriers au départ et vers Paris, les trois quarts et un peu plus des vols moyens et court courriers. Les syndicats réclament une augmentation des salaires de 6%. Hélène Philly, vous êtes à Roissy où les personnels se sont rassemblés ce matin devant le siège d'Air France.
Les drapeaux des syndicats ici se confondent, les pilotes aux côtés des mécaniciens, les hôtesses, les stewards, ils sont tous là et on n'avait pas vu ça depuis 93, preuve d'une colère profonde, témoigne Sophie Gorins du syndicat des personnels navigants.
Souffrir chacun de son côté, c'est difficile. Cette journée, elle est là pour se rassembler et pour se rassurer les uns les autres, se rendre compte que tous les métiers d'Air France pensent la même chose. Je suis révoltée de voir à quel point nous ne sommes pas pris en considération, on ne prend pas soin de nous.
Tous ici réclament 6% d'augmentation alors que les salaires sont bloqués depuis 6 ans. Bien peu de choses pour ce mécanicien, Romuald Ducourtieux, comparé à leurs responsabilités.
On prend la responsabilité d'engager l'avion sur un vol qui va durer 12 heures et d'arriver de l'autre côté de la planète en toute sécurité pour tous nos passagers. Tout ça, la direction veut le minimiser en fait.
Ah, je vous le dis, il faut que la direction rende l'argent. Tous ensemble, rend l'argent.
Si les salariés sont aussi déterminés, c'est qu'ils estiment que l'entreprise peut faire un effort car elle se porte bien mieux. 590 millions d'euros de bénéfices en 2017 grâce au sacrifice des salariés, rappelle Vincent Salle de la CGT.
Depuis 2009, on subit des plans d'austérité, de restructuration qui nous ont privés de jours de repos, privés de jours de congés, qui nous ont fait augmenter la productivité, qui ont supprimé 15 000 emplois. Donc ces bénéfices, ils se sont faits avec notre travail. Il est légitime qu'on réclame ces 6%.
Et les salariés espèrent que la mobilisation historique d'aujourd'hui ramène la direction à la table des discussions.
Hélène Filly à Roissy avec Romain Luquiens. Un mois après la fin du mouvement social dans les prisons, une cinquantaine de surveillants se sont réunis dans le calme ce matin à l'aube devant la prison de Fleury-Mérogis pour dénoncer deux nouvelles agressions de gardiens. Un gardien qui a été hospitalisé après avoir été blessé à l'œil et au visage. Mais l'accès de la prison n'a pas été bloqué. Nordal Lelandais, suspecté dans le meurtre de la petite Maëlys, a refusé de répondre aux questions des juges d'instruction ce matin à Grenoble. L'ex-militaire, arrivé à 9h30 au palais de justice, n'y est donc pas resté longtemps. L'audition a tourné court. Il a refusé de donner des précisions sur les circonstances de la mort de la fillette à la fin août. C'était lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin, en Isère. Et puis un mort et deux adolescentes grièvement blessées ce matin dans une collision entre un minibus et une voiture à Cadenet, en Vaucluse. Le conducteur de la voiture, un homme d'environ 80 ans, s'est déporté dans une courbe. Les deux adolescentes à l'arrière ont été gravement blessées. Le minibus transportait 8 ouvriers qui ont été légèrement blessés.
Jeux Olympiques d'hiver 2018 sur France Inter.
C'est l'une des dernières chances de médaille pour les Français, les Françaises en l'occurrence, dans le relais du biathlon. Et ça se passe assez bien, Vanessa Marguet.
C'est même bien parti pour la médaille. Anaïs Bescon, la dernière relayeuse française, est actuellement en troisième position à 16 secondes de la Biélorusse Daria Domracheva et de la Suédoise Auberg. Mais on a eu beaucoup d'émotions jusqu'ici. C'est très compliqué au niveau du tir pour les Françaises, comme d'ailleurs pour toutes les biathlètes. La neige au début du parcours et le vent rebattent les cartes à chaque passage devant la cible. C'est Anaïs Chevalier qui a ouvert ce relais. Elle a fait trois fautes au tir. Marie-Dorin Imbert, qui avait fait fort sur le relais mixte, a limité la casse avec deux fautes. Et la troisième relayeuse, Justine Brezaz, qui n'est pas en forme sur ses jeux, alors que c'était la meilleure Française avant d'arriver ici, eh bien elle a fait six fautes, mais elle a mis le paquet sur les skis pour passer le relais à Anaïs Bescon, la dernière relayeuse en deuxième position. La double médaillée sur ces Jeux Olympiques en Corée du Sud continue de montrer qu'on peut compter sur elle. On croise les doigts, pour l'instant elle est toujours en troisième position et il reste un petit peu moins d'un kilomètre à parcourir pour passer la ligne du finish, la ligne d'arrivée.
Vanessa Marguet, dans l'épreuve par équipe du combiné nordique, pas de miracle pour les Français. Emmené par Jason Lemichapuis, il termine cinquième, victoire des Allemands. Et puis en slalom, la nuit dernière, aucun favori sur le podium. Hirscher et le Norvégien Christoffersen sont passés à côté. Les Français ont fait un tir groupé, mais au pied du podium, avec notamment le jeune Clément Noël, 20 ans, qui termine quatrième. Allez, c'est un peu notre roman national, peut-être l'œuvre française la plus connue au monde, Les Misérables de Victor Hugo, sortent aujourd'hui dans la Pléiade et c'est un événement. De la dernière édition datait de presque 70 ans. Ilana Mor-Youssef.
Les Misérables, on peut en parler même si on ne l'a pas lu. Les Thénardier, Cosette, Jean Valjean, c'est un peu comme s'ils étaient nos voisins, nos amis, insiste Henri Sépi, maître d'œuvre de cette nouvelle édition.
Ce sont des figures patrimoniales. C'est un ouvrage qui, du fait de son statut de chef-d'œuvre, est pour ainsi dire inhérent à notre culture. Il est consubstantiel à notre conscience collective. Il participe par conséquent d'une certaine idée à la fois de la France en tant que vecteur de valeur et de l'universel.
C'est un livre qui nous parle aujourd'hui, ici et maintenant. Il parle du moment politique que nous traversons.
On ouvre une page des Misérables, on a le sentiment d'être finalement connecté, si je puis dire, en phase avec son temps. Nous vivons une époque, en effet, dans laquelle nous assistons à des phénomènes de déclassement. Nous voyons apparaître sur les trottoirs, dans les rues, des individus sans domicile, livrés à la pauvreté. Des êtres humains ne sont plus regardés comme des êtres humains. Ce déclassement, j'allais dire presque ontologique, de l'homme est au cœur de notre moment actuel. Les Misérables sont un livre qui précisément refuse ce type de choses. Les Misérables ont une vertu, me semble-t-il, qui est de déverrouiller les systèmes, de faire sauter les barrages.
L'objet de ce livre, dit Henri Sépi, c'est l'humanité.
Nouvelle édition de la Pléiade, donc aujourd'hui en librairie. La météo.
La météo avec Région de Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur régiondejob.com.
Fraîcheur et soleil, Sébastien Léas.
L'après-midi se passe sous un ciel quasiment tout bleu, du bassin aquitain au centre Val de Loire, à la Champagne-Ardenne et la Lorraine, jusqu'aux côtes de la Manche et de l'Atlantique. Sur le Bas-Languedoc, le soleil est voilé, mais l'impression reste lumineuse. Partout ailleurs, ce sont les nuages qui prédominent cet après-midi. Quelques éclaircies arrivent à se dessiner, des Pyrénées au Massif central jusqu'au Dauphiné, à la Franche-Comté et à l'Alsace. Mais le ciel est plus gris sur les Alpes, la Provence et la Corse. Quelques averses sont possibles sur la Côte d'Azur, plus nombreuses en Corse, avec de la neige en moyenne montagne des 800 mètres d'altitude. Quelques flocons peuvent aussi se faire remarquer sur les Alpes frontalières. Les températures de cet après-midi sont fraîches pour la saison, variant de 3 à 12 degrés en général, avec seulement 1 à 3 degrés sur le nord-est.